Explication rapide du texte d'Henri Bergson, tiré des deux sources de la morale et de la religion, portant sur le caractère déraisonnable de la religion. Tout d'abord, un petit mot sur l'auteur, ce qui est particulièrement important pour ce texte, qui, comme vous avez pu le remarquer à la lecture, est assez critique envers la religion. À la lecture de ce texte, on pourrait en effet croire que Henri Bergson est athée, ou même s'il est déiste, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu, est très opposé aux religions. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est même d'ailleurs pas le cas. En effet, même si Bergson, juif par ses origines, n'a reçu aucune éducation réellement religieuse, il s'est, entre guillemets, converti au christianisme catholique sur la fin de sa vie. Je dis entre guillemets converti puisqu'il a refusé de se faire baptiser, donc on dira que c'est un catholique de cœur, et il a refusé de se convertir notamment par respect pour ses origines juives et par solidarité avec les juifs persécutés. Bergson est en effet mort en 1941, donc il a connu le début du nazisme et les persécutions des juifs en Allemagne, puis dans les autres pays européens. Mais Bergson est un philosophe, donc il n'hésite pas à exercer son esprit critique, et ce sujet de la religion est l'un des sujets qui lui tient particulièrement à cœur sur la fin de sa vie. Le ton du texte est résolument critique, c'est particulièrement le cas dans la première partie d'un texte qu'on peut découper en trois parties. Dans le premier paragraphe du texte, Bergson critique la religion sur deux points. Le premier point, c'est que la religion apparaît comme déraisonnable, contraire à la raison. Les mots sont durs, il qualifie une bonne partie des croyances religieuses comme absurdes, donc la religion est contraire à la rationalité. Le deuxième point de critique, c'est que la religion, alors que généralement la religion prescrit une morale, des codes de conduite, eh bien la plupart des religions, finalement, dans les faits, ont eu tendance à aboutir à des actes qui étaient plutôt contraires à la morale. On peut ici évidemment penser aux guerres qui sont menées au nom de la religion. Dans le deuxième temps du texte, Bergson insiste sur un paradoxe. Ce paradoxe, qu'il a déjà commencé à évoquer dans le premier paragraphe, c'est que malgré ce caractère irrationnel et immoral de la religion est cependant un fait absolument universel. Autrement dit, on la retrouve dans toutes les sociétés, et malgré le développement des sciences dans les sociétés occidentales, eh bien la religion reste très forte. Donc ce qui étonne Bergson, c'est la force de la religion. Enfin, dans le troisième paragraphe du texte, Bergson va mettre en évidence le fait que la religion est un phénomène proprement humain. C'est-à-dire que la religion distingue l'être humain des autres animaux qui semblent, a priori, ne pas posséder de religion et ne pas éprouver de sentiments religieux, autrement dit de religiosité. Donc, pour synthétiser l'idée principale de ce texte, la religion apparaît à Bergson comme un phénomène absolument paradoxal. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène paradoxal ? C'est un phénomène, un fait qui révèle une contradiction. La contradiction majeure est la suivante, c'est que alors que l'être humain semble être l'animal le plus intelligent, l'Homo sapiens, eh bien, malgré cette intelligence, l'une de ses caractéristiques essentielles qui le distingue des autres animaux, c'est aussi une pratique et des croyances qui sont absolument contraires à cette intelligence, à cette raison qu'il semble aussi posséder en propre. L'être humain, c'est l'être le plus rationnel et en même temps le plus irrationnel. À présent, nous allons revenir un petit peu plus dans le détail, paragraphe par paragraphe. Tout d'abord, on ne peut que remarquer que la rhétorique de Bergson dans le premier paragraphe est particulièrement violente envers la religion. On peut en effet relever les éléments de vocabulaire suivants. Humiliant pour l'intelligence humaine, dans la première phrase. Tissu d'aberration, dans la deuxième phrase. C'est absurde, dans la troisième phrase. À nouveau le terme absurdité. Bref, il semble qu'il faut être bien stupide et peu intelligent pour croire en la religion. Alors, pour modérer un petit peu le propos, on peut quand même remarquer que Bergson n'attaque pas toutes les religions. Il parle de certaines religions ou des religions du passé. On peut donc penser qu'il y a des religions, pour Bergson, qui sont plus rationnelles, plus adéquates, on va dire, à la logique et à l'intelligence que d'autres. Alors ici, Bergson ne prend aucun exemple, mais nous, justement, pour expliquer, on peut en chercher des exemples. Allons tout d'abord du côté des religions anciennes et en lesquelles plus personne ne croit vraiment. Je vais prendre l'exemple de la mythologie des Grecs ou des Latins. Plus grand monde aujourd'hui ne croit qu'il y a des éclairs parce que Zeus est en colère ou une tempête parce que Poséidon est en colère. Pourquoi? Eh bien parce que des siècles de découvertes scientifiques sont passés par là et qu'on explique parfaitement ces phénomènes sans se référer à des êtres surnaturels dont nous n'avons strictement aucune expérience. Pourtant, les Grecs et les Romains de l'époque y croyaient fortement, si bien qu'ils faisaient des sacrifices pour que la météo leur soit favorable, c'est-à-dire pour que les dieux leur soient favorables. Alors ça, c'est pour les religions anciennes. Mais de même, dans les religions actuelles, on entend également souvent parler de choses qui peuvent paraître incroyables, notamment ce phénomène qu'on appelle les miracles. Les personnes qui ne croient pas dans le christianisme ou qui critiquent le christianisme le font souvent en argumentant qu'il est complètement incroyable que Jésus-Christ ait marché sur l'eau ou qu'il ait transformé de l'eau en vin, ce que disent pourtant les évangiles. C'est en effet une critique classique qu'on adresse aux religions en général. Ceux qui n'y croient pas vont qualifier d'absurdes ces éléments qui, au contraire, font que ceux qui y croient sont des fidèles de la religion. Et souvent, ce qui distingue le croyant, c'est qu'il croit justement en l'incroyable. Autrement dit, il croit en ce qui s'oppose à l'expérience commune, ce qui s'oppose à la logique. Comme le dit le texte, l'expérience crie « c'est faux » et la logique crie « c'est absurde ». Voilà pour la première critique qu'exprime Bergson, mais qui n'est pas du tout propre à lui, hein. C'est vraiment une critique très classique. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas très croyant, peut-être que vous avez déjà entendu des gens qui ne sont pas croyants. C'est vraiment une critique qui est une critique de base des croyances religieuses. Et la deuxième critique, eh bien, elle est tout aussi classique. Très souvent, les personnes qui sont opposées à la religion et qui sont critiques de la religion vont mettre en cause le caractère contradictoire de la religion qui très souvent dit qu'il faut être charitable, il faut aider son prochain, il ne faut pas tuer, etc., etc. Alors que au nom de la religion, eh bien, parfois, il y a des persécutions, il y a des guerres, il y a des morts. C'est le cas dans les guerres de religion, c'est le cas de la persécution des Juifs au temps de Bergson, c'est le cas de l'Inquisition au Moyen-Âge. Donc, on reproche à la religion et aux religieux de ne pas suivre les principes qu'ils édictent, de ne pas suivre leurs propres règles. Alors du coup, on pourrait croire qu'avec le développement de la science et de la raison d'un côté, et en observant les méfaits de la religion dans l'histoire, eh bien la religion pourrait perdre de sa force. Or, eh bien ce n'est pas du tout le cas, et c'est ce qui va provoquer de l'étonnement. Vous avez cette mention de l'étonnement, le sentiment philosophique par excellence, au tout début du deuxième paragraphe du texte. Et en écho à l'étonnement, dans le troisième paragraphe, vous avez le mot « confusion ». Quand on est étonné, c'est que on éprouve de la confusion. Il y a quelque chose qui nous apparaît comme problématique. Ça ne va pas. C'est paradoxal. Et c'est ça, la religion. C'est un phénomène qui, pour Bergson, est très paradoxal. Ce qui est intéressant dans le deuxième paragraphe, c'est que Bergson fait apparaître aux côtés de la religion d'autres phénomènes culturels, comme l'art, la science et la philosophie, qui peuvent apparaître comme des rivales de la religion, puisque justement, la science et la philosophie, notamment, ont pour but de développer la connaissance, l'intelligence, la rationalité et l'esprit critique, critique qui peut amoindrir et affaiblir la religion. Or, ce que veut montrer Bergson, c'est que dans les sociétés où se sont fortement développés l'art, la science et la philosophie, tout d'abord, la religion était là avant, et l'apparition de l'art, de la philosophie et de la science n'a pas remis en cause l'existence de la religion. Il n'y a pas de société sans religion, même celles qui sont très développées sur le plan de la rationalité. La religion, c'est et ça reste un phénomène universel. Il n'y a pas de société sans religion, alors qu'il peut y avoir des sociétés sans science ou sans philosophie. Et enfin, dans la troisième partie du texte, cela amène Bergson à vouloir comparer l'existence des religions dans les sociétés humaines et l'absence de religion chez les espèces animales. L'argument qu'utilise Bergson à ce propos, c'est que une capacité existe chez un être vivant si elle se manifeste à l'extérieur, si on en voit des signes. La religiosité des êtres humains, elle se manifeste à l'extérieur. Elle se manifeste dans des cérémonies, dans des pratiques, dans la construction de certains monuments, dans les comportements que les êtres humains peuvent avoir, les prières, etc., etc. Or, on n'observe pas de telles choses dans le règne animal. Donc, si les animaux ne manifestent pas de signes de religiosité, c'est que très certainement, ils ne sont pas religieux. Ainsi, non seulement la religion est un phénomène universel chez les êtres humains, mais c'est aussi un phénomène qui distingue les êtres humains des autres animaux, qui font la spécificité de l'être humain. Ainsi, il y a deux choses qui distinguent les êtres humains. Les êtres humains sont très intelligents et très rationnels, c'est pour ça qu'on a nommé l'espèce humaine Homo sapiens. Je vous rappelle qu'Homo sapiens, ça signifie homme qui sait. Donc la connaissance, c'est ce qui définit l'être humain. Et en même temps, l'être humain semble avoir besoin de croire et de croire à des choses qui s'oppose à ce que lui dit cette raison, à ce que lui dit cette intelligence. C'est donc, pour Bergson, ce qui fait le paradoxe de l'être humain et de la religion.